Et cela, cet enseignement qui dura une dizaine d'années, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, l'a pratiqué pendant une dizaine d'années avant que soit décrété les autres obligations qui incombent, pardon, aux musulmans. Tamam? لأن التوحيد هو الأصل. Parce que l'unicité, c'est la base. C'est la base. وغيره فرع عليه. Et autre que le tawhid, on dit que c'est une branche du tawhid. On dit que c'est une branche du tawhid. On l'a déjà expliqué dans les cours, si vous vous souvenez. On a expliqué que toutes les matières religieuses sont des branches du tawhid. Le tawhid, c'est la matière principale. Taïeb. Wa idha zala al-asl, zalu al-far'. Et si, écoutez bien, la base disparaît, alors les branches, les dérivés, ceux qui suivent derrière, ils disparaissent également. C'est pour cela, une petite parenthèse avant de continuer, très important, c'est un fondement, c'est une règle. C'est pour cela qu'on dit, celui dont les bases, elles sont pas bonnes, elles sont corrompues, tout le reste, il est corrompu. Tayyib. فلما علم الكفار أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم lorsque les mécréants, on parle ici des associateurs, ils ont compris, pris connaissance du message de ce que veut, du but du prophète, alayhi salatu wassalam, qui est d'unifier Allah le Très-Haut par l'adoration et de mécroire à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et de s'en désavouer. Et de s'en désavouer. Shammaru, Shammaru, lahu ansaq al-adawa. Alors en gros, ça veut dire que ça y est, comme ils ont compris le but du prophète, alayhi salatu wassalam, les associateurs, l'adoration d'Allah seul, sans associé. Ça y est, ils déclarent la haine envers le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Le cheikh nous dit, sinon, il ne blâme pas, il ne renie pas qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il est leur Seigneur, celui qui leur a donné l'existence, qui les pourvoit, qui leur donne leur subsistance, seul, sans associé. Et même on nous dit, certains savants disent que les associateurs Quraysh, ils n'ont pas renié l'adoration d'Allah dans l'absolu. Dans l'absolu. Parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a informé qu'ils aiment Allah, qu'ils l'aiment. Les associateurs, ils aimaient Allah, subhanahu wa ta'ala. وَيَعْبُدُونَهُ Ils l'adoraient également. وَيَرْجُونَهُ وَيَخَافُونَهُ Donc, ils avaient de la afwan, de la l'espérance et de la peur envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais Bel innahum lem yankaru illa. Alors la chose sur laquelle ils ont vraiment renié, c'est le fait d'adorer Allah seul, sans associé. وجعل الألوهية خالصة له مختص به وحده. Et le fait l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de unifier Allah, le Très-Haut, dans la divinité, exclusivement, seul, sans associé, exclusivement. Et ça, c'est ce qu'ils n'ont pas fait également. C'est-à-dire que eux, ils ont des adorés, ils font des adorations à autre qu'Allah en même temps qu'ils adoraient Allah, les associateurs. Ibtida'an ihanatun Allah wa istighfaf bihi. بل هم يزعمون يقصدون تعظيم الله تعالى تعظيم الله تعالى. Donc eux, dans ce qu'ils font, ils prétendent avoir pour but de vénérer Allah ou Ta'ala, sa grandeur. Ensuite, là on entre dans les ambiguïtés des associateurs. Alors, ici, le sujet qu'il faut bien cerner. On parle, le cheikh nous parle des associateurs vis-à-vis de l'unicité de la divinité, c'est-à-dire l'unicité dans l'adoration. C'est quoi leur position? C'est quoi leur croyance, les associateurs à l'époque? On vient de voir un petit bout, mais là, on passe à un autre sujet, toujours le même sujet, mais à un autre point, également concernant les associateurs. Donc ils ont quand même adoré Allah, mais en lui associant. Il y a donc de l'unicité dans l'adoration. En fait, ils ont adoré Allah dans certaines adorations, comme ils avaient peur d'Allah, ils espéraient en Allah. Mais on ne dit pas l'unicité. On ne dit pas l'unicité. Et justement, c'est parce que j'ai voulu continuer ma lecture, mais j'avais une question à poser justement parce que je sais que c'est important. Par contre, non, ils n'ont pas rempli l'unicité dans l'adoration. Parce que, alors justement, c'est bien, on va poser la question. Donc s'ils ont quand même adoré Allah, mais en lui associant, il y a donc de l'unicité dans l'adoration. Non. Et maintenant, on aimerait que nos élèves nous répondent. Pourquoi on ne dit pas qu'ils ont pratiqué l'unicité dans l'adoration? Première question. Et deuxième question, quelle est la différence entre l'adoration et l'unicité? C'est très important de connaître la différence entre l'unicité et l'adoration. Comme ça, vous rencontrerez n'importe qui fait n'importe quoi, vous saurez quand c'est l'adoration et quand c'est l'unicité. car l'unicité de l'adoration doit se faire de manière exclusive. Naham. Et eux, on sait que ce n'était pas exclusif à Allah, ils mélangent. Car pour que cela soit complet, il faut renier le shirk et ses adeptes. Naham, c'est une réponse. Quelle est la différence entre l'adoration et l'unicité? L'adoration, c'est un terme. L'adoration, c'est un terme global pour tout acte et parole qu'Allah agrée. Naam. Et c'est quoi la différence avec l'unicité? Alors, on va voir chez les frères. Je termine juste avec nos étudiantes, hein. L'adoration, c'est un terme global. Oui, mais c'est quoi la différence? L'adoration peut se faire pour autre qu'Allah et l'unicité n'est que pour Allah. Ahsante. Ahsante pour nos étudiantes qui ont répondu cette réponse. L'unicité, c'est que pour Allah. L'adoration peut être aussi pour autre. Ahsante. Pour nos étudiantes qui ont répondu, c'est ça la réponse. Pouvez-vous répéter votre question, s'il vous plaît? D'accord, on va la répéter. L'adoration, ce sont des actes et paroles aimées qu'Allah agrée. L'unicité, c'est unifier Allahu Ta'ala. C'est une réponse. C'est une réponse. Non. Cheikh, il m'avait semblé qu'il y avait Cheikh. Car l'unicité dans l'adoration doit être exclusive à Allah et eux donnent des associés. Et si on associe à Allah, tout acte devient batil. Ahsan, Cheikh Abdallah. Cheikh Papa, Abu Nusayba. Car ils n'ont pas réalisé la négation de la ilaha illallah qui est un des deux piliers. Déjà, oui. Oui, Naam. La différence entre adoration et unicité, l'adoration, c'est un mot qui définit tout ce qu'on donne envers une entité pour lui montrer sa dévotion. Pas nécessairement unique, or que l'unicité se peut être faite à plusieurs entités, mais simplement ne peut pas être faite à une seule à plusieurs entités, mais simplement à une seule. Arsène, Cheikh Abdallah, mashallah. Quand on parle du Seigneur, c'est de l'adoration. Et quand on parle de croyance, c'est l'unicité. Quand on parle du Seigneur, c'est de l'adoration. Et quand on parle de croyance, c'est l'unicité. Non, c'est pas ça la réponse. La réponse, c'est que quand on parle d'adoration, on parle de toute divinité confondue. C'est un terme général. Et quand on parle d'unicité, là, c'est que pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, toute adoration n'est pas forcément de l'unicité. Toute adoration, c'est pas forcément. Quand on dit tawhid, c'est pas forcément quand on dit adoration, pardon, c'est pas forcément tawhid. Parce que l'adoration, c'est général. C'est un terme général qui englobe toute adoration, fausse ou pas. Et la vraie, il n'y en a qu'une. Tandis que l'unicité, là, on sait que c'est le culte exclusif à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a une différence. Et c'est ce qui fait que les associateurs, eh ben, non, ils n'ont pas pratiqué l'unicité. Les associateurs n'ont pas pratiqué l'unicité. Ils ont pratiqué l'adoration, c'est pas pareil. Regardez, l'adoration, c'est l'adoration d'Allah par exemple. Mais c'est aussi l'adoration de telle ou telle ou telle fausse divinité. L'unicité, c'est toujours l'adoration d'Allah. Mais c'est l'adoration d'Allah seul sans associé. Alors la différence entre l'adoration tout court et l'unicité, c'est que l'unicité, c'est l'adoration d'Allah seul sans associé. Et l'adoration, c'est l'adoration d'Allah tout court avec d'autres. Donc l'adoration peut être du polythéisme. L'adoration tout court, elle peut être du polythéisme, mais pas le tawhid. Ça, c'est très important si vous avez compris ça, mashallah. Taïb, ce sont des fondements dans le tawhid, ça. Très important. Ça peut vous permettre de distinguer, de distinguer par exemple, comme on en parlait récemment, de prendre un associateur et que lui va vous dire désolé, mais moi j'adore Allah aussi. Hein. Les associateurs, les soufis, tout ce que vous voulez, les chiites, ceux qui sortent de l'islam, ils vont vous dire, ouais, mais nous on adore Allah aussi. Hein. Si tu ne connais pas ce qu'on vient d'expliquer là, si tu ne connais pas ce qu'on vient d'expliquer là, tu ne pourras pas lui répliquer. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas partir avec une ambiguïté. Ouais, c'est vrai, ils adorent Allah. Hein. Vous allez lui dire, ça c'est ce que la plupart des gens de la masse, de la sunna connaissent. Ouais, mais tu fais des bid'a, t'es pas sur la vérité. Oui, mais moi j'adore Allah. Tu peux pas me sortir de l'islam. Je suis désolé. Les gens qui jouent sur les mots, eh ben, il faut qu'ils jouent sur des ambiguïtés et des mots, il faut casser leurs ambiguïtés par rapport à leurs mots, leurs propres mots à eux. Mais excuse-moi. Excuse-moi, d'accord, tu adores Allah. D'accord. Mais l'adoration, c'est pas l'unicité. Ce n'est pas le tawhid. Les associateurs à l'époque du prophète, a.s., ils adoraient Allah aussi. C'est pas pour ça qu'ils ont été jugés de musulmans et de croyants. Ils ont été combattus et rendus mécréants dans la législation. Donc il faut que tu vous lui dites, hein, on ne sait jamais, il faut que tu trouves un autre argument. L'adoration, c'est un terme général. L'adoration, dans notre contexte ici, il est au sens général. Ça comprend toute l'adoration. Donc, qu'est-ce qui prouve le chiite, le soufi, le... Qu'est-ce qui prouve... Chiite, hein? Qu'est-ce qui prouve que... Il pratique le tawhid. Par contre, il n'y a rien qui prouve. Par contre, on peut prouver qu'il a contredit le tawhid. Et c'est pour ça qu'il sort de l'islam. Voilà. Le sorcier, c'est pareil. Tu peux aller à la mosquée. Tu peux dire la ilaha illallah. Tu peux, si tu as pratiqué un acte annulatoire de l'islam, si tu as fait de la mécréance, parce qu'on sait que. Eux, ils travaillent avec les shayatines, et les shayatines, le cahier des charges, c'est de faire du kouf, du shirk, de la mécréance, du shirk, insulter, etc. Il y a tout un détail sur ça. Donc, désolé, mais il y a acte annulatoire de l'islam. Donc, à ce moment-là, ton adoration, elle est caduque. Parce que c'est une adoration, mais ce n'est pas du tawhid. Voilà, c'est très important. Alors, on en était où? Naham. Alors, les associateurs, après, regardaient leur cheikh, c'est le shaitan, hein, regardaient leurs savants dans la diablerie. Leurs savants dans la diablerie, qu'est-ce qu'il leur a transmis? À votre niveau, à votre niveau, les associateurs, hein, à votre niveau, vous ne pouvez pas adorer directement Allah ou Ta'ala. C'est le shirk qui nous dit ça ici. Hein. À votre niveau, vous ne pouvez pas adorer Allah, subhanahu wa ta'ala, directement. Allah, c'est la divinité. Digne d'être vénéré, la plus haute divinité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Vous ne pouvez pas l'adorer directement. Alors, vous devrez prendre des wasa'it, awas, au pluriel, hein, wasita, des intermédiaires. Et c'est comme ça que certains se sont fait prendre dans le polythéisme en invoquant des tombes ou des morts ou des intermédiaires. Ils disent, ils vont intercéder pour nous auprès d'Allah. Donc regardez la subtilité de l'égarement, de leur égarement, c'est qu'ils vont prendre une adoration, par exemple, qui est l'invocation. Alors, on prend l'exemple de l'invocation, mais ça peut être l'exemple du sacrifice, du vœu ou d'autres, hein, même la prière. Il y en a, ils se prosternent pour les djinns, pour les shayatines. Hein. Donc, le shaitan, il leur a fait, il les a dupés en leur inculquant en sorte, en leur inculquant, pardon, le fait de prendre des genres d'adoration que normalement, si on est mouahid monothéiste, on ne les voue exclusivement qu'à Allah seul sans associé. Eux, le shaitan, il a réussi par le biais de oui, mais vous n'êtes pas assez pieux, vous n'êtes pas assez pour directement invoquer Allah, donc il faut invoquer des intercesseurs. Et boum, ils sont tombés dans le polythéisme. Ils sont tombés dans le polythéisme. Alors, an ya'budu an ya'budahu mubasharatan bidun wasita fadila baynahum wa baynahum tashfa' lahum 'indahu wa tuqarribuhum ilayhi zulfa. Alors les associateurs, eux, ils vont prétendre que ça les rapproche, cette action de prendre des intermédiaires. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, intermédiaire, dans leur contexte, dans le polythéisme, qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont faire des invocations dans des tombes à un tel, des saints, en leur demandant d'intercéder auprès d'Allah, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de les pardonner, de les excuser, de leur donner des enfants, de les éloigner du mal, de leur ramener le bien. Mais en réalité, ils invoquent des morts. Donc ça s'appelle vouer une adoration à autre qu'Allah. Tu peux dire ce que tu veux. Les savants disent changer la réalité des terminologies, appelez ça de l'intercession. Appelle ça comme tu veux. Les savants, ils ont une règle. On dit en arabe, tahrir al-tasmiyat, la tughayyir al-haqa'iq. Le fait de changer les terminologies, ça ne change pas la réalité de la chose. Le polythéisme, ça reste du polythéisme. Appelle-le comme tu veux. Bonbon, gâteau, intercession, granola, appelle-le comme tu veux. Si c'est du shirk, c'est du shirk. Appelle-le comme tu veux, télé-réalité, séance de magie. Appelle-le, parce qu'aujourd'hui, attention. Hein. Attention aujourd'hui. Je vous donne des exemples. Hein. Ils appellent ça autrement. Séance de voyance, astrologie. Oui. Paraît-il que, ah oui, c'est vraiment bientôt, ils vont en vendre en épicerie des cartes de sorcellerie, des bons, ils vont les vendre dans les épiceries bientôt. Wallah al-musta'an. Surtout en France. Hein. Oh lo 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 lo. À une époque, Allah al-musta'an, ça je connais pas. Sorcellerie blanche, ça je connais pas. On nous met déjà dans nos voitures et boîtes aux lettres. Allahu Akbar. Wallahu Akbar, Allah musta'an. Alors, d'autant plus hein, qu'aujourd'hui, le musulman, franchement, il doit s'armer de tawhid, de subhanallah. Vous savez, c'est Allah qui donne tout. Mais vous savez, je vais vous donner un exemple. J'ai connu un frère, il y a quelques années, hein. Un frère qu'on apprécie également beaucoup. C'est un spécialiste dans le Coran, professeur de Coran, enseignant et tout, mais incroyable, hein, il est très bon. Allah ibarak. Et ce frère, miskin, au moment où il s'est marié, alors à l'époque où les célibataires, on se fréquentait, on échangeait le ilm, etc. Et au moment où il s'est marié, boum! Mais lui, il a reçu la forte dose de sorcellerie. Il a reçu une forte dose, si bien que quand je le rencontrais, il me disait j'ai une famille, ou je ne sais plus comment il disait, plein de genoux, il m'appelle au polythéisme, c'est Allahu Akbar. Il m'a dit c'est une bagarre dans mon corps, ils me veulent me faire renier Allah, etc. Qu'Allah nous en préserve tous, nous en protège et nous en guérisse. Amin. Je l'ai revu quelques années après. Il m'a dit Alhamdulillah, ça va mieux. Mais ça, c'est quoi? Par la grâce d'Allah. Si t'as pas de tawhid, t'as pas étudié le tawhid, t'étudies pas le tawhid, t'as pas un minimum, comment tu vas combattre? Comment, quand les waswas ils vont venir, tu fais pas la différence entre les shubuha, les waswas, les. Parce que tu ne connais pas. Donc quand tu ne connais pas, tu n'étudies pas, t'es une proie encore plus facile. Ben ouais. Mais quelqu'un qui a un minimum, qui connaît ou qui étudie ou quoi, ou qui est dans le rappel, le tawhid, etc., c'est quand même un médicament. C'est quand même un médicament. Alors, certainement, on le sait ça, parce qu'on a déjà eu des élèves, et là, c'était même pas en institut sur Internet, hein, c'était du face à face, hein, on était assis en face. On a déjà eu des élèves et on voyait les réactions, on voyait que c'était très dur, etc. Mais ils ont patienté. Wallahu al-musta'an. Qu'entend-on par vœu en tant qu'adoration? Vœu, ce n'est pas invocation. Pouvez-vous me donner, un exemple, s'il vous plaît? D'accord. Naam, tayyib. Le vœu en arabe, on dit nadar. Nadar. Yufuna bin nadari wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatirra. Le vœu dans l'islam, c'est considéré comme une qui est considéré comme une adoration, c'est le vœu lorsqu'on demande quelque chose à Allah, on fait le vœu, ya Allah, donne-moi ça. Et je me conduirai bien, je ferai ça, je ferai plus de salawat, nawafil, surérogatoire. Donc il y a tout un détail sur le chapitre du vœu, ne vous inquiétez pas, on le fera en temps voulu, chapitre complet sur le vœu. Mais en globalité, en général, voilà ce qu'est le vœu. Faire une demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam? Faire une demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Là, c'est pas pareil que l'invocation. Il y a une différence entre le vœu et l'invocation. Le vœu, c'est une demande particulière. Comparé à l'invocation, qui est quelque chose de général, qui est quelque chose de plus général. Le vœu, c'est une demande à Allah subhanahu wa ta'ala particulière, ciblée. Et il y a des savants qui disent ça va jusqu'à la demande de contrepartie. Et ça, on le verra, ne vous inquiétez pas. Hein. Comme on vous a dit, hein, toutes les matières à l'institut, Inch'Allah ta'ala, on est parti pour comment dirais-je, apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de connaissances dans le tawhid, dans le comportement, dans toutes les matières. On va apporter beaucoup, beaucoup de connaissances. On va essayer de pousser le plus loin et le plus longtemps possible. Donc, plus la personne va rester, Je dis pas ça pour faire de la publicité, hein, parce qu'on n'est pas dans cette option-là. Mais c'est logique. Plus la personne va rester, plus elle va apprendre. Moins elle va rester, moins elle va apprendre. Wallahu a'lam. Et ça, c'est valable dans tout, hein. Tu vas à l'université, plus tu vas rester, plus tu vas apprendre. Moins tu vas rester, moins tu vas apprendre. Peut-on avoir les termes en arabe? C'est la dua, vœu et le dhikr, invocation. Le vœu, on dit an-nazar. An-nazar. La dua, eh ben, l'invocation, on dit ad-dua. Barakallahu fik, c'est tellement confus dans ma tête, d'où l'intérêt d'apprendre son din. Alhamdulillah, oui, l'importance d'apprendre son din dans la langue qui lui est facile. Barakallahu fikum, vous voyez, subhanallah. Inch'Allah, doucement, doucement, vous allez apprendre avec le temps. Parce qu'il y a des choses, nadhar naham, c'est ça. Il y a des choses que des fois, pas du premier coup, on va les assimiler. Mais comme la science, ça se répète. On va répéter plusieurs chapitres plusieurs fois, on va répéter plusieurs choses, ça va se répéter la science, ça se répète dans un autre chapitre, avec un autre chir. On va revoir telle chose et telle chose. On va les revoir. Et à force, si t'as pas compris du premier coup, subhanallah, subhanallah, mashallah, je ne savais pas, hein, de rien, avec plaisir. Écoutez, on va prendre 2 secondes ici. Je vais regarder encore mieux si je trouve une parole de grand savant. Et ensuite, je reviens à toi, Cheikh. Il me semble que c'est Cheikh Abdallah qui a mis. Subhanallah. Écoutez, quand vous avez des questions comme ça, scientifiques, ilmi, ne restez pas avis à tous les élèves. Ne restez pas avec ambiguïté ou question. N'hésitez pas. Je vous dis franchement, ça ne nous dérange pas. Si on peut répondre, on répond. Si on ne peut pas répondre, mais on fera tout. On fera tout pour vous répondre. Justement, il ne faut pas rester comme ça. Il ne faut pas. Il ne faut pas. On est là pour ça, nous. Poser les questions, même si ça met du temps à répondre ou quoi. On essaye toujours de répondre à tout le monde. Alors, on va regarder rapidement si je trouve une parole de savant ici. Pour aller plus loin dans. C'est important. Cheikh Abdallah, je crois que c'était pour la salade. Vas-y, Cheikh Abdallah, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Wa iyyakum, wa iyyakum, wa iyyakum. Mal farq. Mal farq. Mal farq. Baina ad-du'a wa an-nadhar. Charan. Alors, farq bayna ad-du'a wa an-nadhar. Je regarde s'il y a un grand savant. Alors, ce qu'on nous dit ici, ils sont connus pour prendre toujours des grands savants ici. Alors, la question, je vais direct à la réponse. Fa inna du'a yakhtalif 'ani an-nadhar min 'iddati wujuh. L'invocation, elle diffère du vœu de plusieurs manières. On nous dit. Hein. Minha anna ad-du'a khudu' wa tadhallul wa su'al Allah jalla wa ala. D'abord, d'un côté, parce que l'invocation, on se soumet à Allah. On s'humilie envers Allah au Ta'ala et on lui demande. Donc la dua, l'invocation, elle fait partie des plus connues, na'am, éminentes, connues parmi les invocations apparentes concernant l'adoration. Tandis que le vœu, c'est comme un genre de, pardon, un genre de pacte que tu fais avec Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est une demande que tu fais comme si tu un pacte, un genre d'allégeance, de pacte. Lorsqu'une personne, concernant le vœu, lorsqu'une personne a besoin de quelque chose, pardon, il dit par sa langue, avec sa langue, dans une situation particulière, ô Seigneur, donne-moi telle chose et je ferai telle adoration. Alors, après, on ne rentre pas dans le chapitre du vœu. Il y a d'autres choses. Si je ne les mentionne pas, j'ai mes raisons, hein. Nous avons nos raisons. Mais voilà, par rapport à la question, ce qu'il faut savoir, voilà la différence. C'est comme on vous a dit, hein, si vous regardez bien. Voilà, voici la différence entre l'invocation et le vœu. Taïb, le vœu, c'est pas pareil. C'est comme un pacte qu'on fait avec Allah. On demande. Oh Allah, donne-moi ça, facilite-moi dans ça, fais que moi je sois comme ça, je sois guéri ou fais ça, et je ferai plus de salat nawafil par exemple. C'est, on fait un pacte avec Allah, on demande. Non, ça rentre pas dans le chantage, mais comme on a dit, on va pas détailler parce que ça rentre dans le chapitre. Oui, il y a une forme comme ça. Il y a des savants comme l'imam al-Bukhari ou d'autres, les savants, même le prophète, hein, qui ont dit que le vœu, il y a une sorte de bukhl, c'est-à-dire d'avarice dans le vœu. Tu deviens avare. Ça veut dire, si on ne me donne pas ça, je ne ferai pas ça. Mais ça, c'est un autre sujet. Masha'Allah, masha'Allah. Naham, mais ça n'en reste pas moins une adoration. Taïb, alors ça, on le fera le détail au moment voulu. Tamam? Le dhikr, tantôt, c'est un terme général, le dhikr. Le dhikr est un terme général. Le dhikr, ça peut être mentionné à Allah, mais. Au sens général, ça peut être avec la langue. Pourquoi on dit majalis dhikr? Les assises de rappel. Ça aussi, c'est du dhikr. Quand dans le hadith, on dit, kulli shay mal'un, tout est maudit, sauf le rappel d'Allah. Dhikrullah. Le dhikr, là, ça veut dire c'est que le rappel avec la langue? Non, c'est le rappel en général. Wallahu a'lam. Taïb. On continue avec la parole de l'auteur. Et là, c'est comme on vous a dit, hein. Vous allez voir. Alors, parmi également, wa iyyakum, parmi également les ambiguïtés et le stratagème que le shaitan utilise pour que les associateurs y soient bien ancrés, bien tombés dans les ambiguïtés et le polythéisme. C'est que, regardez, subhanallah, quand on pense avec notre raison et nos passions, comment c'est facile. Vous savez que on a les ambiguïtés, c'est, je crois, Allahu a'lam, hein. Les savants disent c'est ce qu'il y a de plus dangereux, les ambiguïtés. C'est une arme tranchante du shaitan. Ah, les ambiguïtés, c'est une arme tranchante. Vous savez que les savants disent les ambiguïtés, c'est plus grave que les que ash-shahawat, ash-shubuhat, ash-shaddu min ash-shahawat. Vous savez c'est quoi? Les shahawat, ce sont les désirs, les passions. Les ambiguïtés, c'est encore plus grave. Et on va argumenter, on va vous donner un exemple. Une passion ou un désir, tu peux faire taouba, tu peux te racheter, te rattraper, demander pardon parce que c'est un péché en fait, si vous voulez. Zina, vous savez, tous les grands kaba'ir, les grands péchés par exemple. Ça, ce sont les désirs, les passions. Mais les choubouhat, une fois qu'il y en a une, elle est rentrée dans ton cœur et t'es partie chez les soufis, les chiites, les... Ça t'a coûté quoi? Ça t'a coûté quoi? Allahu Akbar, c'est plus grave. C'est plus grave. On n'a pas dit que c'est pas grave les shahawat, les désirs, les péchés. On n'a pas dit que c'est pas grave. Mais les savants, ils disent que c'est encore plus grave les shubuhat. Alors vous voyez pourquoi le shaitan, il utilise cette épée tranchante. À chaque fois que vous allez aller faire quelque chose, pour ça, il faut faire très attention. Là, je vais vous donner une faïda très importante. Une faïda très importante. Quand vous allez entreprendre quelque chose ou quand vous avez un doute ou quelque chose, vérifiez toujours que ce n'est pas une ambiguïté. Si ce n'est pas une ambiguïté, ce que vous avez dans le cœur. Parce que les ambiguïtés, elles ne sont pas dans la tête, c'est fait pour attaquer le cœur. Tayyib. Ce qu'on parlait dans le cours précédent du comportement, ben ça c'est l'arme tranchante du shaitan. On la voit à travers tous ces imposteurs, ces détracteurs. On les voit. Leur arme, c'est des ambiguïtés. Écoutez, écoutez, avant de reprendre un petit peu et avant d'arrêter, Naqul, on vous dira. Très important également. Tous ces gens aujourd'hui qui ont été pris comme des références. Des références dans les réseaux sociaux, qui n'ont pas étudié, etc., qui se mettent en avant. Demain, appuyez sur le bouton réseaux sociaux, bouton éteint. Tout est éteint, il n'y a plus de réseaux sociaux, c'est fermé, c'est fini. Dites-moi s'ils existeront encore dans la sphère de l'apprentissage de la science, de la science religieuse ou pas, ils n'existeront plus. Ils existent à travers la scène diabolique des réseaux sociaux. Le contexte diabolique, hein, le contexte diabolique. Taïb. Alors on nous dit ici, faqad yaqa fi shirk wa haoula. Qu'est-ce qu'on était en train de dire? On était en train de dire que le shaitan, naham, hadahua, shubuhat, naham, ash-shubuhat, naham, que le shaitan, regardez comment il a réussi à les avoir par le naham. Il a réussi à les avoir par quoi? Par l'ambiguïté de dire je relis hein, parce que c'est sorti de la tête. Non, voilà. Alors regardez avec quelle ambiguïté, on était en train de vous parler des ambiguïtés, le shaitan il est venu chez les associateurs. Regardez la subtilité du shaitan. Il leur a dit, il leur a insufflé, hein, et aujourd'hui c'est devenu un argument pour eux, une référence dans leurs ambiguïtés. Quelle est cette ambiguïté? Eh bien, écoutez, normalement, quand on veut intercéder auprès d'un roi, d'un ministre, d'une personne haut placée, on envoie quelqu'un de bien placé pour parler à notre place, pour que ça passe mieux, que notre requête, notre demande, elle passe mieux. Ils ont fait l'analogie, le shaitan il leur a fait l'analogie de ça pour dire, eh ben avec Allah Ta'ala c'est pareil, il faut passer par des intermédiaires. Wallahul musta'an. Regardez, ils ont comparé l'activité, le procédé plutôt des êtres humains avec la manière dont on doit procéder avec Allah. Alors qu'Allah Ta'ala fi kitabihil karim dans le Coran, il nous a enseigné la méthode ad'uni astajib lakum. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. À peu près le sens du verset. Invoquez-moi, je vous exaucerai. Invoquez-moi, je vous exaucerai. Allah Ta'ala, il nous dit, il nous demande de l'invoquer directement. Et comme vous le savez dans d'autres versets, hein, ce sens il est mentionné également dans d'autres versets. Allah Ta'ala dit وَإِذَا سَأَلَنِي عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ. Et lorsque mon serviteur me demande, je suis proche de lui. Pas besoin de... Et je l'exauce. Pas besoin d'intermédiaire, de... Alors, quand on ne connaît pas, on n'apprend pas son tawhid. Quand on ne connaît pas, on n'apprend pas son tawhid. On va écouter Foulen et Allen, un tel et un tel. Non, faut pas apprendre avec eux. Non, faut pas, non. Là, on peut faire une analogie. Écoutez bien. Là, on peut faire une analogie, par contre. C'est que ces gens-là qui font barrage à la science du tawhid, ceux qui veulent apprendre le tawhid, non, ne va pas là, ils vous emmènent des ambiguïtés pour pas que vous appreniez le tawhid. Ont-ils fait le jeu du shaitan ou pas? Ils font le jeu du shaitan. Ça, c'est la da'wah du shaitan, c'est pas la da'wah des prophètes. Il a dit quoi le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes, le meilleur des hommes, qu'est-ce qu'il a dit à propos de ça? Balliru anni walau aya. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Toi, tu connais un verset, tu sais ce que ça veut dire le verset dans ta langue, tu maîtrises bien, même en français. Tu as, ou un hadith, et tu as une personne qui connaît ou qui connaît pas, qui a besoin de cette transmission. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis non, comme c'est en français, je vais pas lui transmettre, je vais pas lui dire que... Je ne vais pas lui dire le hadith ou la parole du prophète sur la prière. Il a des doutes sur la prière, il ne sait pas. Est-ce que c'est obligatoire de prier ou pas? Quelqu'un qui vient de se convertir, il ne connaît pas. C'est un exemple. Hein. Ah non, 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 on n'a pas le droit de propager. Non, non, c'est pas en langue arabe. Non, non. Non, 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 non. Le non, non, là, c'est qui l'investigateur? Le shaitan. Le shaitan. Wallah al-musta'an. Et justement, en parlant de ça, pour terminer, notre cheikh ici, il le dit. Hein. Il parle du shaitan ici, dans la fin de sa parole. Il nous dit, فَيَجِبْ عَلَى الْمُسْلِمْ أَنْ يَتَعَلَّمْ دِينَ. Regardez, subhanallah. Le cheikh nous dit, il est donc obligatoire aux musulmans qu'il apprenne sa religion. Vous voyez ce qu'on essaye de vous expliquer? Tout à l'heure, c'est pas on jongle, hein, on va, tantôt on explique la vérité, tantôt on explique le stratagème du shaitan, et tantôt on vous dit quoi comme conclusion? Celle que nous donne le cheikh ici, ça veut dire quoi? En réalité, si tu veux éviter tout ça, apprends ton tawhid, apprends ta religion. Pourquoi beaucoup d'associateurs, beaucoup de sectes sont tombés dedans? C'est par ignorance. Suivi des passions, manque de connaissances. Ils n'ont pas suivi les gens de la droiture, les gens de science, la science utile. Vous avez le remède. Nous avons le remède. Wallahi, nous avons le remède. C'est est-ce qu'on veut le prendre ou est-ce qu'on ne veut pas? Il s'agit de ça aujourd'hui. Il y a tout. Il y a tout pour apprendre. Tu as envie d'apprendre ou tu n'as pas envie d'apprendre. Et je vous donne encore une faïda. Et là, Inch'Allah, j'espère que ça vous aidera à vraiment à percevoir certaines choses. Vous savez, en règle générale, c'est pour ça que soyez vigilants, soyez précautionnistes. En revenant sur la jalousie, soyez précautionnistes. Vous savez pourquoi? Parce que vous le savez pas. Vous êtes, oh, moi, j'étudie à un institut. Oh, moi, oh, j'ai appris. Oh, moi. Et vous savez pas, les gens autour de vous, ils sont jaloux. Pourquoi les gens sont jaloux? Ils ne veulent pas que vous alliez étudier dans l'institut ou ailleurs. Parce que la majorité des gens ne veulent pas étudier aujourd'hui. Au risque de vous choquer, hein. Je vous le dis, ce sont des statistiques que j'ai fait moi-même en regardant, etc. Et je suis sûr de mes statistiques. La majorité des gens aujourd'hui, ils ne veulent pas étudier. Ils ne veulent pas étudier. La majorité des gens aujourd'hui ne veulent pas étudier. Ils préfèrent le bricolage, les polémiques. Mais sinon, on serait... Les instituts, ils refuseraient même des gens. Ils diront, écoutez, il y a trop de monde, on ne peut pas prendre de... Je vous assure que si les gens, ils voulaient étudier, peut-être même les étudiants, ils auraient plus le temps à faire autre chose. On est débordés dans les instituts, on est débordés... Les gens ne veulent pas étudier. Faites vous-même les statistiques. Combien d'abonnés, combien d'étudiants sont venus, combien de vues dans les vidéos, dans les machins, et combien quand tu fais un institut ou quand tu vas, ça y est, tu vas enseigner vraiment dans un encadrement méthodologique les sciences religieuses. Alhamdoulillah, nous on se contente et nous on est très satisfaits. Mais si les gens voulaient étudier, vous savez très bien ce que je veux dire. Si les gens vraiment, ils courraient après les études. Et là, on parle de tawhid. Hein. Alors là, par contre, dans notre jamara, Amin, vous avez compris, hein. Mashallah, vous avez compris qu'Allah nous préserve cette ni'ma. Amin. Retenez bien cette parole de notre étudiante. Qu'Allah préserve notre ni'ma. Amin. Parce qu'il y en a, ils veulent vous voler cette ni'ma. Et ce n'est pas fini. Il me semble, j'ai un peu oublié, mais il me semble, alors ceux qui sont tout frais, ou ceux qui ont une bonne mémoire, pourront me... Il me semble que dans le premier introduction, dans le premier cours qu'on avait fait, c'était quoi? On parlait des différents points de l'institut, si vous vous souvenez. Le premier, les différents points... On avait dit attention au shaitan. On avait même mis, me semble, un petit dessin avec un sens interdit ou je ne sais plus. Attention au shaitan. Il va tout faire pour vous faire arrêter la science d'études de la science, des choubouets, des stratagèmes du shaitan. Barakallahu fikoum. Oui, les stratagèmes du shaitan. Et regardez, aujourd'hui, on est encore dedans. 6 ou 7 mois, je ne sais plus combien de mois après. Et regardez, je l'ai dit au début. Je ne vous ai pas dupé. Dès le début, je vous ai mis par la grâce d'Allah, on vous a mis sur le bon chemin. Vous allez apprendre le tawhid, vous allez avoir une armée sur votre dos. Alors des fois, vous aurez des baisses de foi. Subhanallah, c'est le combat de toute une vie. Oui, c'est jusqu'à la fin. Les savants disent, il y a des gens, ils sont dans les affres de la mort, ils sont en train de mourir. Le shaitan, il vient, il dit, hey, tu t'es trompé de religion, c'est pas ça. Il essaye de te faire penser du mal sur Allah. Si t'as pas un bon tawhid, t'as jamais étudié le tawhid. Et vous avez dit une phrase très très importante, étudie avant que la science disparaisse. Oui, ça, on pourra même faire un cours spécifique sur ça. Et vous savez, j'ai plein... Oh, Allahu Akbar. Il faut vraiment qu'on demande à Allah qu'il nous donne du temps. J'ai plein de durus de Sheikh Abdelazar Kalbadar sur ces sujets-là. Masha'Allah, une flèche pour le cœur. Vous savez, ça fait partie, on doit adopter quel comportement face à une personne jalouse, faut ignorer, ou carrément, faites des doigts, qu'Allah vous préserve de son mal. Et oui, faut l'ignorer. faut l'ignorer. Sinon, ça, si on commence à leur donner de l'attention, on doit adopter quel comportement? Ignorer ou carrément couper les ponts. Si ça commence à être nuisible pour votre religion, les savants ils disent vous coupez les ponts. Si les gens étudiaient, appliquaient, il y aurait beaucoup de convertis. Subhanallah. 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 Ibn al-Jawzi, la première ruse d'Iblis sur les gens et de leur fermer les voies de la science, car elle est une lumière. S'il parvient à éteindre leur lumière, il pourra. Subhanallah. Il n'y a pas mieux que les paroles des savants. S'il parvient à éteindre leur lumière, j'ai du mal avec le tchat, mais c'est bon. Donc ils ont quand même adoré Allah, mais en. Ah, tu vois, oh là là, c'est remonté. J'ai perdu le. L'adoration pour ce. Faut que j'aille tout au bout. Si les étudiants étudiaient, appliquaient, il y aurait beaucoup de convertis. Et après, j'ai plus rien. Voilà. Désolé, le chat, il débloque un petit peu. Donc voilà. Wallah, aujourd'hui, quand même, il y a de la faïda, d'ailleurs, tout le temps. Mais faites attention. Faites attention, Wallah, ça me fait plaisir quand les gens ont conscience qu'on est dans une nirma. Ça me fait vraiment plaisir parce que c'est très important d'avoir cette conscience. Nous, quand on était à l'institut, on était pareil. De Cheikh Mokbel, on était pareil. On disait tous les jours, Subhanallah, on est dans une nirma, Subhanallah. Ça, c'est quand ton cœur, il a goûté à la lumière. Allah ibarak, Allah ibarak, Allah ibarak, tabarakallah, mashallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ça, c'est quand le cœur, il a goûté à la lumière. Alors, il a goûté à cette, il dit, il ressent cette ni'ma. Mais il y a des gens, ils n'ont jamais goûté à cette ni'ma. On dira pas qu'ils y goûteront jamais, on ne connaît pas la fin. Mais ils sont mal partis. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils te coupent le chemin, ils viennent te balayer. Ils viennent te balayer. Ils viennent te couper le chemin, les jaloux, les. Non, non, toi, tu vas pas aller étudier les ambiguïtés. Et c'est le shaitan qui les anime. Alors, je demande pardon à mes étudiants, les frères, si j'ai un peu. J'ai pas fait attention. C'est dur de gérer le côté frère et le côté. Comme vous le savez, on essaye d'être entre parenthèses d'abord les étudiantes et après nos étudiants. Mais si on fait les deux en même temps, c'est bien. C'est bien. Aoustez, donc l'unicité, c'est l'adoration d'Allah. Cheikh Hakim, je m'excuse pour le temps à répondre. L'unicité, c'est l'adoration d'Allah seul, sans associer exclusivement. Et l'adoration peut être du polythéisme, mais pas le tawhid. Exactement, c'est ça, Cheikh. Cheikh Hakim, et attention, c'est une règle très importante, c'est bien ça, oui. Cheikh Abdullah, Oustaz, désolé de vous demander car je suis devant la mosquée, mais pas de souci, Cheikh Abdullah, jazakallahu khair. Barakallahu fik, à demain, hayakumullah, Oustaz. Allah y hayak, Cheikh, wafik, barakallah, Cheikh Abdullah. Nadir, amin. Amin, Cheikh Nadir, mashallah. Pas de souci, c'est vrai qu'il y a Salat al-Maghrib, 21h20, en France, depuis 23 minutes passées. Hayakallah, Cheikh, papa. Quel est le statut de celui qui entre un cours de. Qui entre. Qui. Alors. Quel est le statut entre continuer un cours de science ou faire la prière? Alors. Il y a des savants qui disent que quand on a commencé. Quand on est dans un cours. Wallahu a'lam. Quand on est dans un cours. Étant donné que l'heure, c'est quelque chose de large, on peut reculer un petit peu la salate pour faire le cours. Il y a des paroles de savants comme ça. Ça, c'est plus quand on est dans des assises de science, pas sur Internet. Pas sur Internet, c'est-à-dire, cela fait presque 1 heure que le Maghreb est passé. Ah, moi, je ne savais pas. Ça, je ne savais pas. Ce que je peux dire, c'est que moi, ça ne me cause aucun souci de faire une pause, que les élèves, vous me dites quand c'est le Maghrib, et on peut faire une pause, si après ça ne vous dérange pas de prendre sur votre temps un peu plus tard, on continuera et on fait une pause et vous faites votre prière, il n'y a aucun souci. Mais par contre, si c'est pas trop longtemps, si on recule pas trop longtemps, les savants comme Cheikh Ibn Baz, ils disent on peut continuer le cours, terminer le cours et faire salat jamara ensemble après. On sait que pour les femmes, il n'y a pas de salat jamara, entre parenthèses, hein, obligatoire. Donc, pour les sœurs, le problème ne se pose pas. Tant que ça sort pas, on va dire Allahu a'lam, la demi-heure. Ça dépasse pas la demi-heure. Wallahu a'lam, on n'a pas toutes les mêmes. Ah oui, on n'a pas toutes les mêmes horaires. Oui, c'est vrai qu'il y en a, ils sont dans d'autres pays. Moi également, je suis en Angleterre. En tout cas, pour ma part, moi, ça ne me dérange pas quand quelqu'un il quitte le cours et il va prier. Jamais, 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 au grand jamais, on privera quelqu'un. Déjà, même si on prive quelqu'un de prier, il ne doit pas nous obéir. Il ne doit pas nous obéir. Pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance du créateur. Désolé, peut-être que ma question est idiote, mais quand on mange, j'ai souvent entendu qu'il fallait privilégier la nourriture à la prière. C'est vrai, oui, il y a un hadith qui dit lorsque la manger, il est posé sur la table, il est préparé, il est prêt, on retarde la prière. Naham. En fait, j'écoute le cours, mais je ne suis pas tranquille. D'accord. Dans ces cas-là, wa fikum barakallah, faites votre prière. Faites votre prière. C'est prioritaire. C'est prioritaire. Naham. Moi, je suis des cours avec des mashaïrs, des docteurs. Jusqu'à aujourd'hui, ça m'arrive. Et des conférences, tout ça, hein. L'université, à Médine, etc. Et quand c'est l'heure de la salat, bon, il y a une cinquantaine, hein, des fois, d'élèves, il y a du monde. Je vais faire ma salat. Alors, c'est en fonction. Si, par exemple, le hasar, on a un temps, tant que c'est pas. Il y a plusieurs temps dans la salat. Le morlob, c'est vrai que c'est un peu limité. Il y a des savants, ils disent faut pas dépasser 30 minutes, etc. Mais le morlob, c'est une autre histoire. Le morlob, faut essayer de le faire le plus vite possible. Mais l'Isha, pour ceux qui vont pas à la mosquée, hein. Alors, vous savez, le problème qui se pose, c'est qu'il y a des divergences. Il y a des divergences. Donc, on ne peut blâmer personne et on ne peut imposer quoi que ce soit à personne. On ne peut pas imposer la jamara à quelqu'un parce qu'il y a divergence sur la jamara, sur la prière en groupe, bien que nous, on a la position que c'est obligatoire. Mais si quelqu'un il dit que ce n'est pas obligatoire, on n'a rien à lui dire. Il y a des grands savants qui disent que ce n'est pas obligatoire. Si par exemple il dit non, moi je ne fais pas la prière à la mosquée, pour moi ce n'est pas obligatoire, c'est une position. Attention, elle existe. Même si, voilà, nous on a la position que c'est obligatoire, mais je ne vais pas faire un débat alors qu'il y a des grands savants de la sunna qui disent que ce n'est pas obligatoire. Wallahu a'lam, on n'entre pas dans ça, c'est juste wa fikum barakallah. Et pour les sœurs, c'est plus souple. C'est plus souple. Selon les paroles des savants, etc., les sœurs, c'est plus souple. Elle est à la maison, elle a ses, comment on appelle ça, ses tâches, si vous voulez, ses occupations, etc. Il y a des savants, ils disent, elle peut vaquer à ses occupations, et quand elle a décidé de, toujours en restant dans l'heure, de faire la prière, elle fait sa prière. Et des savants, ils disent comme ça. Maintenant, la plus grande récompense, c'est de faire la prière à l'heure. Alors, je vais vous donner une petite précision. C'est bien à savoir. Franchement, c'est bien à savoir, à connaître. Ça veut dire quoi la prière à l'heure? La prière à l'heure, ça ne signifie pas, ils ont fait l'ADN, ça y est, tout de suite, il faut que je fasse la prière. C'est pas ça la prière à l'heure. La prière à l'heure, les savants disent, faire la prière à l'heure, c'est faire la prière dans le temps où ta prière, elle est toujours à l'heure. Ça veut dire si tu l'as fait juste avant qu'entre le asar, tu as fait ta prière à l'heure. Maintenant, la différence. entre est-ce que tu as fait faire sa prière à l'heure, où c'est vaste, ça va du dhuhr jusqu'au asar, du maghrib jusqu'à l'isha. Mais la différence entre faire ta prière à l'heure et faire la prière à la meilleure heure, la meilleure récompense, la première heure, c'est pas pareil. Si par exemple tu pries juste avant le asar, 10 minutes, un quart d'heure, on dira que tu as prié à l'heure. Personne n'a le droit de te dire que tu n'as pas prié à l'heure. Tu auras prié à l'heure. Mais tu n'auras l'heure de la prière, il se divise en trois parties, trois moments. Wallahu a'lam. Et le meilleur, c'est le premier moment. Lorsque ça fait l'adhan, le premier temps de la prière, ça. Donc nous, on appelle et on incite les étudiants et tout le monde, les musulmans, à faire leur prière au premier temps, c'est là où il y a le plus de récompenses. Mais il faut savoir qu'on ne peut pas vous dire vous n'avez pas fait la prière à l'heure si vous n'avez pas dépassé l'heure de la prochaine salat. Wallahu a'lam. Il y a des gens, ils vont vous dire, oh, t'as pas prié à l'heure. Attention, il y a nuance. Donc, Inch'Allah ta'ala, on vous. Je regarde concernant les frères. Nadir, Amin, pas de souci, c'est vrai. Pas de blâme en matière de divergence, c'est ce qu'on a appris au cours. Masha'Allah, Cheikh Nadir. Exactement. Exactement, Cheikh Nadir. Pas de blâme en matière de divergence. Barakallahu fikum. Quelles sont les trois parties de la prière, Cheikh? J'ai un peu oublié le détail. Je sais qu'il y a le premier moment, il y a le deuxième moment et il y a le troisième moment dans la prière. Le meilleur moment, c'est le premier. Le deuxième, c'est intermédiaire. Hein, et le troisième, c'est valide. Et ce n'est pas le meilleur moment. Ta prière, elle est acceptée, hein, mais ce n'est pas la plus récompensée. Taïb, le détail des trois, j'ai. Concernant la divergence de la prière collective à la mosquée, ça concerne la salat Sobha et salat al-Isha, en toutes les prières. Barakallahu fik, oui, il y a des savants. Il me semble que c'est l'imam Malik, et il y a d'autres, parmi les quatre imams, d'autres où il y a des riwayas, c'est-à-dire des versions qui disent que la prière en groupe, elle n'est pas obligatoire. Celui qui ne fait pas la prière en groupe, il n'a pas de péché. Alors je vous dis tout de suite, moi, je vous expose. J'ai pas dit que c'était la position la plus forte. Et j'ai pas dit que j'incitais à ça, mais c'est bien de le savoir. Parce que moi, j'ai pas cette position. Moi, j'ai la position que c'est obligatoire. Mais si quelqu'un vient te voir et dit, moi, je suis convaincu, pour moi, c'est pas obligatoire. Tu n'as pas le droit de me dire que je suis dans le péché. J'ai une autre position. Eh ben, on n'a rien à lui dire. Naham. Naham. Donc voilà, Inch'Allah ta'ala, ça naktafi bihad al-qadr. Nous allons nous contenter de cela aujourd'hui en vous remerciant pour votre belle participation et votre bonne présence. Barakallahu fikum. Inch'Allah ta'ala, par la volonté d'Allah, on se retrouve demain dans de nouveaux cours. Et qu'Allah vous préserve tous. Wa iyana, iyakum wa iyana. Amin, amin, hein. Amin. C'est normal. C'est normal. On essaiera vraiment de vous montrer et de pratiquer le meilleur des comportements pour que vous puissiez, Inch'Allah ta'ala, au moins gagner la science, le comportement. Et Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous facilite de tous aller au paradis. Parce que le but dernier, dans tout ça, pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on fait tout ça? Pour l'agrément d'Allah. Pourquoi l'agrément d'Allah? Pourquoi on fait tout ça? C'est pour aller au paradis. C'est pour aller au paradis. Là, on est en train de s'entraider pour aller au paradis. Donc, il y a des gens, ils vous mettent des bâtons dans les roues pour aller au paradis. Regardez, je vais vous ramener la preuve et on va terminer sur ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prend un chemin vers la science, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Et il y a des gens, ils viennent pendant que tu es sur le chemin de la science et ils te disent, non, c'est pas comme ça, non, attention, non, il faut la langue arabe, non, 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 non. Toi, tu es sur le chemin et ils viennent. On est en train de s'entraider pour aller au paradis, chers étudiants. Quand je vous donne des cours, J'essaye de vous les donner avec mon cœur. Je pense que ça se ressent. Je transmets avec mon cœur. Inch'Allah Ta'ala, sans entrer dans les niyas, les ostentations, j'essaye de Allah Ibarak, comme un sportif, un coach, tu vois qu'il aime bien, il est gentil, il t'explique. Ou un professeur qui vient, il fait son cours, merci, au revoir. Et attention, bientôt il y a un contrôle. Aucune compassion, aucune entraide, aucune. Subhanallah. Exactement. Si tu ne transmets pas avec ton cœur, tu ne toucheras pas les cœurs. On a expliqué ça. Moi, j'essaye de toucher les cœurs. J'essaye parce que c'est le moteur. C'est le moteur. Vous savez que malheureusement, les pauvres, il y a des étudiants qui ne sont pas restés, hein. Ils sont tombés dans les ambiguïtés ou je ne sais quoi. Ils sont pas restés, ils se sont fait avoir, les pauvres. On leur a donné une chance. Je vous assure qu'on donne des chances. On leur a donné une chance. On a vu qu'ils n'étaient pas motivés, ils s'accrochaient pas. Comme si, bon, bah, tant pis, hein, si je peux pas rester à l'institut, bah, tant pis. Wallah, il faut t'accrocher à ton talibul ilm. Faut t'accrocher à ton talibul ilm. Si tu aimes, si tu tiens à ta place, s'il y a des malentendus, s'il y a un coup du shaitan, s'il y a quelque chose, lâche pas. Bats-toi. Bats-toi pour ça. Il y a des gens, ils se battent pas. Oh, ben ouais, il y a un étudiant, par exemple, je vous donne, il y a quelques mois de ça, hein, peut-être 2 mois, je ne sais plus, il était super assidu. Mashallah, barakallahu fikoum. Je lirai le commentaire après. Un élève, il était super assidu. Un jour, par rapport à un intérêt, l'étudiant, il voit les choses, il sait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Comment il faut orienter. Donc, cet étudiant, il nous dit, oui, moi, je suis en contact avec une certaine chaîne sur les réseaux sociaux qui est connue, tout ça, etc. Des ignorants, hein? Inconnus, ignorants. Et moi, je connais leur procédé. Je sais que eux, ils vont vers des étudiants ou des gens qui sont en contact avec des étudiants ou des élèves, et ils commencent à se mettre bien avec eux, et après, hop, ils envoient le poison. Ce frère, je lui ai dit, fais attention, Harry, fais très attention. Je te conseille de les délaisser si tu veux rester à l'institut. Parce que ça sera pas compatible à. Ça sera plus compatible à arriver à un moment. Je sais pourquoi je dis ça. Et l'étudiant m'a dit, de toute façon, c'est comme vous voulez. Hein, si vous voulez me retirer de l'institut ou faites comme vous voulez. Je l'ai retiré direct. Directement. Je les retire parce que ça veut tout dire. Ça parle. Ça parle. Wallahul musta'an. Ton talibul ilm, tu dois montrer que tu t'y accroches, que tu y tiens, que tu mérites ta place. Vous croyez quoi? C'est pas comme ça. Combien de savants je suis parti voir, moi, pour contrer les retards toujours. Regardez, il se passe ça. On téléphone. Des fois, c'est du face à face. J'ai vu des ulama, des chouyours en face. Voilà, ils disent ça. Ils mettent des bâtons dans les roues pour le talab al-ilm. On se bat pour notre place, pour rester dans les instituts, pour etc. Non. Oh, tu fais comme tu veux, si tu veux. Allahul Musta'an. Ton chemin vers le paradis, tu fais comme tu veux. Mais eux, ils vont te donner quoi après les groupes comme ça d'ignorants inconnus? Ils vont te donner quoi après? Du bricolage. Vidéo par-ci, mise en garde par-là. Ils n'ont même pas étudié Jarh wa Ta'dil, critique et l'éloge, ils font des mises en garde. Wallahul musta'an. En tout cas, on va juste lire le dernier commentaire. C'est depuis vos cours que j'ai compris qu'on déteint de notre enseignant. Votre comportement a une grosse influence sur nous. Allahumma barak. Barakallahu fikum. Franchement, c'est mon but. C'est le but. Je l'ai même dit, hein, à plusieurs fois. J'ai dit, Wallah, on aimerait que tout ce qu'on apprend dans le comportement, tout ça, il faut que les étudiants à l'institut le pratiquent. On sera gagnant-gagnant. Il faut. Il faut qu'on pratique, qu'on ait vraiment un bon comportement, celui que nous transmettent les savants. Nous, on transmet le comportement des salafs, hein. Pas des voyous, hein. Pas des voyous. Wallahu a'lam. Wa sallallah, j'expliquerai quelque chose à une proche. J'expliquais quelque chose à une proche. Et j'ai remarqué en moi votre méthodologie inconsciemment. Masha'Allah. Oui, c'est oui. 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 Bah c'est comme ça. Quand on étudie avec quelqu'un, si la méthodologie, elle est bonne, de toute façon, même si elle est mauvaise, le professeur, il déteint. Donc, si c'est du khair, les gens qui vont déteindre, ça va être que du bien. Bonne méthodologie, sagesse, douceur, amour. Et si vous avez un professeur, c'est un pirate. C'est un pirate. Eh ben, les élèves seront des pirates. Quoi, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas comme ça. Ouais, les ulama, ils ont dit. Ouais. Vous savez ce que nous a dit un frère, j'avais oublié. Cheikh Nordin, on avait coupé dans le cours précédent. Il a dit, Subhanallah, j'ai connu un frère, quand il a vu le comportement des gens, des frères de la Sunna, il est parti chez les soufis. Ça l'a dégoûté, il est parti chez les soufis. Alors on ne dit pas c'est des excuses ou quoi, mais oui. Voilà, les gens n'ont pas la bonne méthodologie, ils sont méchants, etc. Nous, on n'apprend pas ça ici. On n'apprend pas ça. Soyez doux, avec de l'amour. La personne, quand elle ressent de l'amour, de la douceur, quand vous parlez à quelqu'un, je vous assure que ça a un impact alors que vous-même, vous ne le savez pas. L'amour, la... Wallah, il y a quelques jours, je me suis arrêté, j'ai ouvert la fenêtre, j'ai dit salam à un frère. Il était choqué, je l'ai vu dans son... Il était choqué. Il a dit, mashallah. Il était choqué. Pourquoi? Parce que la plupart des frères de la sunna, visage froncé, froid, il dit pas salem, il marche tête baissée, il fonce. Il regarde même pas. Peut-être son frère, il était en train d'agoniser, il va pas le voir tellement il se préoccupe pas de son frère. Peut-être son frère, il a besoin de lui. Hein. Wallahu al-musta'an. Nous, on n'est pas comme ça. On veut pas que les gens soient comme ça. On n'apprend pas ça. Barakallahu fikum wa sallallahu وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله